Info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ce soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui au sommaire, déplacement historique de John Kerry en Somalie, les Éthiopiens en butte au racisme en Israël, incertitude concernant les accords de paix au Mali, évacuation précipitée des habitants des îles du lac Tchad, santé, les ravages des faux médicaments sur la santé et enfin rubrique éducation, grève des professeurs au Niger. Voici tous les sujets que nous allons développer dans Sahel Plus. Restez avec nous. Consacrons la première partie de Sahel Plus à la Corne de l'Afrique. Le secrétaire d'État John Kerry achève aujourd'hui à Djibouti son voyage en Afrique de l'Est qui l'a conduit au Kenya et aussi en Somalie. Timothée Donangmaï s'est entretenu à ce sujet avec le professeur Walid Fares de la National Defense University de Washington. Il revient sur la visite surprise hautement symbolique de John Kerry à Mogadiscio.
Les États-Unis ont développé des politiques d'appui au gouvernement somalien contre les radicaux, contre Al-Qaïda et les Shabab depuis des années. Mais c'est la première fois qu'un officiel de ce niveau-là arrive en Somalie. C'est un signe de solidarité avec le gouvernement et le peuple somalien contre les violences, surtout après ce qui s'est passé au Kenya il y a quelques semaines.
Quel est le bilan de l'appui américain aux efforts contre Al-Shabab en Somalie?
Vous voyez, il y a une politique de l'administration qui est aussi appuyée par le Congrès de soutenir le gouvernement somalien, mais aussi le gouvernement de la région contre l'expansion d'Al-Qaïda, qui en fait est Al-Shabaab dans la région, pas seulement au point de vue militaire, mais aussi au point de vue social, économique et surtout diplomatique, point de vue africain.
Au programme de cette visite africaine du secrétaire d'État Kerry, le Kenya donc, mais aussi Djibouti, quelle est l'importance stratégique de ces pays pour les États-Unis?
Vous voyez, c'est toute la région qui se tire de Djibouti, où les États-Unis ont un intérêt stratégique et une présence militaire, jusqu'au Kenya et les pays avoisinants. C'est une région qui a été menacée d'une part par les Shabab, mais aussi qui a été soumise à des épreuves de guerre civile et de tensions internes. Alors, Washington essaye de démontrer une solidarité avec ses gouvernements africains, mais au-delà des gouvernements aussi de lancer un appel aux sociétés civiles de cette région-là. Alors, c'est un voyage qui est très important, mais ce n'est que le début.
Lors de son passage au Kenya, le secrétaire d'État John Kerry a également entamé des préparatifs pour la visite du président Barack Obama. Quelle va être la portée de cette visite du chef de l'exécutif?
Ça va être une visite historique, le président Obama qui arrive sur sa terre ancestrale. Mais aussi, cela nous donne un peu une vue sur le rôle qu'il va jouer après la fin du mandat présidentiel.
Walid Fares, professeur à la National Defense University de Washington. Et au cours de son voyage dans la Corne de l'Afrique, le secrétaire d'État américain, donc John Kerry, a également annoncé lundi le soutien de Washington à la création d'un tribunal pour juger les auteurs de crimes au Soudan du Sud. Plus de détails avec Morgane Guériec.
Au cours de sa visite officielle au Kenya, John Kerry a dit soutenir la création d'un mécanisme judiciaire crédible, impartial et efficace, tel un tribunal hybride, pour que les responsables des violences puissent répondre de leurs crimes. Pour démarrer la mise en place d'une telle instance, Washington s'engage à donner 5 millions de dollars. Human Rights Watch avait proposé en décembre 2014 la création d'un tribunal hybride, comprenant des juges du Soudan du Sud et des juges internationaux. L'Union africaine aussi avait plaidé en faveur de la poursuite des responsables des crimes. Le conflit sud-soudanais a éclaté en décembre 2013 entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Les combats sont souvent accompagnés de massacres et atrocités contre les civils. Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts dans le plus jeune pays du monde.
Merci Morgane. Et pour terminer cette première partie consacrée à la Corne de l'Afrique, nous allons évoquer le triste sort des Falachas, ces juifs éthiopiens arrivés en Israël à la fin des années 80 et dont l'intégration dans la société israélienne a été un échec majeur. Une récente vidéo montrant un jeune soldat juif éthiopien se faisant tabasser sans raison par deux policiers à Tel Aviv a mis le feu aux poudre. Des manifestations ont eu lieu pour dénoncer le racisme et les discriminations dont font l'objet les Falachas. Comme les arrestations arbitraires, si les Juifs éthiopiens ne représentent que 2% de la population, ils comptabilisent 40% des détenus en Israël. Myriam Charbil, enseignante à Jérusalem, revient sur les affrontements de ces derniers jours.
Ce qui est le plus déplorable, c'est que la couverture par les médias a été très antipathique à l'égard de ces jeunes qui, en fait, souhaitaient protester pour quelque chose de tout à fait justifiable puisqu'ils considèrent qu'il s'agit de racisme à l'encontre de la population éthiopienne.
Ce sont des juifs éthiopiens, donc, qu'on appelle les...
Ils sont juifs, tout à fait, ils sont juifs, mais ils sont d'origine, donc, éthiopienne. Hier, c'est qu'il y a eu une deuxième manifestation. Cette fois-ci, il y a eu encore plus de monde. Ici à Jérusalem, il y avait 2000 personnes. À Tel Aviv, il y avait autour de 3000 personnes. Il n'y avait pas seulement des juifs éthiopiens. Il y avait aussi des juifs israéliens. Et là, ça a été vraiment le baston. Ils sont descendus sur la grande autoroute. Ils n'avaient pas le droit d'arrêter la circulation, mais ils l'ont fait. Et alors, à partir de là, ça a dégénéré d'une manière extrêmement violente.
Est-ce que les Éthiopiens, les Falachas, subissent du racisme en Israël?
Oui, tout à fait. Je veux dire, on a en Israël un phénomène très, très affligeant de beaucoup de racisme à l'égard de plusieurs groupes, en particulier les Éthiopiens, en particulier les demandeurs d'asile qui arrivent d'Afrique, les Érythréens, les Soudanais, en particulier les Arabes, et aussi dans une moindre mesure les Juifs dont les grands-parents arrivaient de pays arabes. Donc il y a en Israël beaucoup de racisme, malheureusement. Ces derniers mois, il y a eu à plusieurs reprises des gens qui parlaient, simplement parce qu'ils ont parlé arabe dans l'espace public, ont été tabassés.
Myriam Charbil, enseignante à Jérusalem, elle répondait aux questions d'Idriss Fall.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Direction l'Afrique de l'Ouest pour cette seconde partie d'émission. Au Mali, la situation est de plus en plus tendue dans le nord du pays et les attaques se multiplient. Tout cela se passe à quelques jours de la signature de l'accord de paix, un document que les groupes armés refusent de paraffer. Est-ce que la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, signera l'accord? Élément de réponse avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Signera, signera pas. La question est sur toutes les lèvres à Bamako. Beaucoup de Maliens pensent que la CMA ne signera pas l'accord d'Alger. D'autres pensent que les acquis vers la paix doivent être consolidés. Colonel Hassan Ag Mehdi du Front populaire de l'Azawad.
Il est très important aujourd'hui que chacun comprenne que le plus brave, c'est celui qui a pu aider ses pays à consolider ce qu'il a acquis. Le plus intelligent, c'est celui qui revient à se dire la vérité lui-même en faisant comprendre que les Maliens n'ont plus besoin de se voir périr pour des futilités. Que les Maliens arrêtent de se provoquer, qu'ils arrêtent de se pourchasser. C'est le moment d'amener chacun son apport à la construction de ces pays. C'est le moment d'avoir le courage de s'asseoir et de dire ce qu'on pense.
Le chef de la tribu Kail Antassar est en colère. Il ne comprend pas pourquoi les rebelles s'attaquent aux populations du cercle de Goundam. Abdul Majib Ag Mohamed dit Nasser.
J'ai dit aux gens de la CMA que ce n'est pas Bintagungu qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Liri qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Goundam qui a attaqué Liri. C'est Gacha qui a attaqué Menaka. S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller voir Menaka et affronter les gens de Gacha au lieu de s'attaquer à des pauvres populations de Bintagungu, de Liri, là où leurs parents viennent se ravitailler tous les jours. S'ils sont hommes, non qu'à aller voir les gens de Gacha, ça ne sert à rien quoi. Il faut qu'ils arrêtent. Nous, on veut la paix parce qu'on sait qu'il n'y aura rien dans ce pays-là s'il n'y a pas de paix.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus 102 FM, notre fréquence à Bamako. Au Niger, les populations vivant sur les îles du lac Tchad ont été sommées par les autorités d'évacuer au plus vite. Une décision qui fait suite à la sanglante attaque de la secte islamiste Boko Haram contre une position de l'armée nigérienne sur une de ces îles le 25 avril dernier. Attaque qui a fait au moins 74 morts, dont 28 civils et 32 disparus. Mais cette évacuation n'a apparemment pas été préparée, ce que certaines structures de la société civile ont tenu à dénoncer. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Ce sont des milliers de gens qui arrivent, qui ont traversé à pied. Sur le chemin, des gens qui sont morts de soif, de faim, des malades transportés dans des pousse-pousses, des femmes qui ont accouché, d'autres qui ont accouché et qui sont mortes sur le chemin, etc. Sans vraiment une assistance digne de ce nom. Donc c'est une situation très grave.
Telle est la situation sur le terrain, telle que décrite par le secrétaire général de l'association alternative Espace Citoyen, Moussa Tchangari.
Selon les témoignages que nous avons recueillis dans la région de Diffa, aucun dispositif n'a été mis en place pour l'évacuation, l'accueil, l'installation et l'accompagnement des populations qui ont été sommées de déguerpir les 74 îles et 116 villages de l'île de Lac Tchad. Au contraire, des obstacles même sont dressés pour empêcher aux transporteurs locaux de porter secours, d'aller au-delà de certains endroits pour assurer le transport. Cette situation montre que ce n'est pas une évacuation de la population. Parce que qui dit évacuation, ça veut dire que le gouvernement, les autorités mettent en place un dispositif. On connaît les gens, on vient, on les récupère, on les amène dans un autre endroit, on les installe, c'est ça évacuation. Ce qui est en train de se passer dans le lit du lac Tchad, c'est une expulsion des populations.
Cette décision d'évacuation a été prise par les autorités dans le cadre de l'état d'urgence décrété dans la région de Diffa depuis les premières attaques de la secte islamiste Boko Haram. Pour Alternative Espace Citoyen, c'est cette situation d'état d'urgence qui conduit à des excès et même à des violations des droits de l'homme. Moussa Tchangari.
L'état d'urgence donne lieu à des violations graves des droits humains, parce que chasser des gens de cette façon est une violation des droits. C'est quand même une situation très grave et nous assurons l'attention du gouvernement sur l'obligation qu'il a de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. Il ne s'agit pas seulement de contrôler un territoire, mais il faut aussi protéger cette population.
Du côté des autorités régionales de Diffa notamment, l'on assure que tout s'est passé dans les normes. Pas besoin donc de réagir aux accusations portées par l'association Alternative Espace Citoyen. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Rubrique santé à présent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 120 000 enfants meurent en Afrique chaque année à cause des faux médicaments. Quelles solutions sont-elles mises en place? Isha Grower a joint Pernet Esteve, analyste à l'OMS.
Le grand problème, c'est qu'on n'a pas de bonnes idées, on n'a pas de bonnes estimations précises globales ou régionales d'ailleurs, sur l'étendue, la portée et les dommages causés. Donc, pour savoir ce qu'il en est, pour mieux combattre ce trafic-là, la première chose à faire, évidemment, c'est de savoir ce qu'il en est. Et pour répondre à ce besoin, en 2012, l'OMS a établi ce qu'on appelle le dispositif des États membres. Donc, c'est une réunion de tous les États membres de l'OMS, donc tous les pays du monde, et on a développé un système d'alerte rapide. Et ce système d'alerte rapide permet d'améliorer la quantité, mais aussi la qualité des informations qu'on a sur ce trafic de médicaments faux, falsifiés, faussement étiquetés et de qualité inférieure. Et grâce à ce système-là, on arrive à fournir un soutien technique et opérationnel aux différents États membres qui se trouvent dans des états de crise ou au risque face à ces incidents. Et on émet des alertes internationales sur divers incidents de produits falsifiés. En anglais, on appelle ça les drug alerts, qui sont accessibles sur notre site internet et qui permettent de mieux prévenir et mieux protéger la santé publique des pays, des personnes dans le monde entier, parce qu'un incident qui va toucher un pays donné peut évidemment toucher un pays dans une région complètement différente, parce que la nature des chaînes d'approvisionnement des différents types de médicaments est par nature international et interrégional.
Alors, comme vous avez dit, ce problème est pas nouveau. Est-ce que ça améliore? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une économie complètement globalisée. Tout, avec un clic, on peut échanger entre l'Afrique du Sud et, par exemple, le Venezuela. Donc, auparavant, ça a été une menace qu'on considérait comme affectant surtout les pays à revenus faibles ou moyens. Aujourd'hui, c'est vraiment une menace globale parce qu'il y a une mondialisation rapide, parce qu'il y a le libre-échange, parce qu'il y a les différentes technologies de l'Internet. Et tout ça est véritablement exacerbé par une culture d'automédication et le commerce en ligne. Donc plus on cherche, plus on va trouver.
Pernette Estève, analyste de l'Organisation mondiale de la santé. Au Niger, les élèves des collèges et lycées de Niamey ont entamé mardi une grève de 2 jours pour réclamer des vaccins contre l'épidémie de méningite. Eddy Issango.
Ousseini Abdou Seini, secrétaire général de la section lycée-collège de l'Union des scolaires du Niger, a annoncé que les cours sont suspendus dans tous les établissements secondaires pour interpeller les gouvernements afin qu'ils vaccinent tous les élèves contre les ravages de la méningite. De nombreux lycées et collèges étaient fermés hier dans la capitale et la grogne des élèves doit durer 48 heures. Les élèves menacent d'arrêter définitivement les cours si la vaccination ne démarre pas d'ici la fin de la semaine. Quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans les pays et sont en cours de distribution alors que plus du double a été commandé. Depuis janvier, l'épidémie a fait 252 morts sur 3 300 cas recensés dans le pays. Très contagieuse, la méningite se manifeste par une montée brutale des températures, des violents maux de tête, des vomissements et une raideur du cou. When you can see the same reflections of city lights.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Elvin Sangano. À la technique, Alfredo Santos. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain à 18h10, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec le Nigérian Tony Allen, l'ancien batteur de Fela, qui sort un nouvel album, Film of Life Remixes, chez Jazz Village. On écoute ici Go Back, featuring Damon Albarn. Très bonne soirée et très bonne nuit à tous. Does anyone see you left out all the rocks? Does anyone see? We'll be right back.